Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
François Mitterrand, premier épisode, Vichisto, résistant.
Ma décision est prise. Je veux aller à Vichy pour servir la cause des prisonniers.
Sans le maréchal, la France s'effondrera et il n'y a pas que des saints autour de lui. On en connaît quelques-uns. Des amis de la famille, des gens du coin. Je peux te recommander si tu veux. Mais François, méfie-toi de la politique, méfie-toi.
François Mitterrand raconta souvent son évasion. C'est à sa troisième tentative, fin 1941, qu'il put s'échapper de son stalag. La suite, il la rapporte ainsi dans « Ma part de vérité ». Rentré en France, je deviens résistant sans problème déchirant. Certains de ses contemporains savaient que le parcours avait été plus compliqué. N'avait-on pas parfois surnommé le ministre de la 4e République Francisque Mitterrand? Non sans raison, mais sans que cela porte vraiment à conséquence. Il n'avait pas été des premiers résistants, pas non plus des derniers. Pendant les années 1950, on souriait plutôt des incarnations multiples qu'avait pu connaître François Mitterrand. Mais à l'époque où il est candidat perpétuel à la présidence, le climat a changé. Les historiens insistent de plus en plus alors sur la responsabilité du régime de Vichy dans le choix d'une collaboration volontaire. Jacques Lang, dans le dictionnaire amoureux qu'il vient de consacrer à son mentor, observe qu'il n'était pas contemporain de notre époque qui, je cite Jacques Lang, « frise l'apoplexie mémorielle et l'hystérie victimaire ». Approchant de sa fin, le président a voulu, en ce domaine comme dans d'autres, opérer la clarification nécessaire devant l'histoire. Il autorise et encourage l'enquête de Pierre Péan sur sa jeunesse, dont la publication provoque un grand vacarme. Les historiens commencent alors à inventer un nouveau concept, le vichisto-résistant. François Mitterrand en est le prototype idéal.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Marc Lambron, bonjour.
Bonjour.
Tout de vert vêtu, c'est normal?
C'est normal.
Hein, vous êtes reçu à l'Académie française au mois d'avril. Mais on va parler d'un livre que vous avez publié peu après, Pierre Péan, en 1997, qui était consacré à Vichy, 1941, situé l'année d'avant l'arrivée de Mitterrand à Vichy. Ça ne doit pas être un hasard. Alors, vous êtes romancier, mais en même temps, votre métier, c'est conseiller d'État, donc vous faites attention aux faits, vous les vérifiez, vous continuez à lire beaucoup sur le sujet. Vichisto-résistant, petite définition d'abord, comme il y en aura peut-être un jour, une, dans le dictionnaire de l'Académie française.
Vichisto-résistant, c'est une notion commode et tardive, puisque, comme vous le soulignez, elle a été inventée au moment où il fallait venir un peu en renfort de François Mitterrand, dont la réputation historique était mise en cause par le livre de Péan. On pourrait dire, il y a deux acceptions qui se croisent. Un vichisto-résistant, ça peut être quelqu'un qui, comme beaucoup de Français, était pétainiste en 40 et résistant en 44. Il y a eu des basculements pendant la guerre, et notamment après l'invasion de la zone libre en novembre 42. Puis un vichisto-résistant, ça peut aussi être quelqu'un qui était dans les cadres de Vichy, qui servait l'État français, mais qui, depuis son poste, faisait aussi de la résistance, ou jouait un double jeu. Et Mitterrand coche les deux cases, finalement.
Ou on pourrait dire, parce que vous avez fait un lapsus tout à l'heure quand on préparait l'émission,
il
cache les deux causes.
Il cache les deux causes, ou il coche les deux cases.
Si je vous le vais bien, on va commencer en entendant une interview qu'il a donnée peu après la publication du livre de Pierre Péan. C'était avec Jean-Pierre Elkabbach, en direct de l'Élysée, un soir de septembre 1994. Il revient sur une des photos publiées dans le livre de Péan, celle où il apparaît manifestant en mars 1935. C'est l'avant-première étape, il est étudiant au Quartier Latin, et il proteste contre un juriste, le professeur Gèze, qui conseillait le négus dont le royaume avait été envahi par Mussolini. La manifestation avait eu vite fait de traiter le professeur Gèze de juif Gèze.
En 1935, c'est février, on vous voit, dit Péan, dans une manifestation d'étudiants, contre, je cite le titre, l'invasion des métèques.
J'ai vu ça et Pierre Péan a eu l'honnêteté de m'en parler. Et il aurait la même honnêteté de vous dire, s'il parlait avec vous, que je m'en suis beaucoup étonné. J'ai dit, écoutez, c'est à mon avis, cette manifestation n'avait pas cet objet. En tout cas, je n'en ai gardé aucun souvenir. En tout cas, je tiens à dire, ce n'est jamais été, par tempérament, par habitude et aussi par l'enseignement de mon père et de ma mère, je n'ai jamais été hostile comme ça, instinctivement, jamais sensible au racisme. Mais on est quand on a cet âge-là, sauf capacité extraordinaire que je ne semble pas avoir eue, on est le produit de son éducation et de son milieu. J'étais, jusqu'à ce que mon expérience personnelle, ma réflexion personnelle, me fasse faire d'autres choix, j'étais le produit de ce milieu. Et c'était un milieu de petite bourgeoisie, modérée, catholique, patriote, peut-être un peu conforme, sans méchanceté particulière, n'aimant pas les extrêmes, très curieuse intellectuellement, je suis ce produit-là. Je commence à acquérir une expérience personnelle, un jugement sur les hommes et sur les choses, et sur l'état de la société, disons, à partir de ma captivité en Allemagne.
Oui, bah, enfin, quand même, le passage au quartier latin le fait entrer davantage dans les milieux d'extrême droite que son expérience de provincial angoumois.
Oui, il y a un adjectif que je corrigerai dans ce que dit l'ancien président, c'est modéré. C'est vrai qu'il vient de ce milieu de fils de vinaigrier des Charentes, droite nationaliste. Mauriac disait que c'était un enfant barésien. Vous voyez, Maurice Barrès, le grand apôtre du nationalisme français au début du siècle. En effet, Mitterrand est allé un peu plus loin à ce moment-là. Il a été volontaire national, c'est-à-dire membre d'un mouvement de jeunesse qui était lié aux Croix de Feu, le colonel de la Roque, qui étaient donc des ligues qui, dans les années 30, conspiraient tout de même au renversement du régime parlementaire ONI. Il semble qu'il ait eu une affection pour le comte de Paris, à ce moment-là. Il y a ces monomes ou ces manifestations au quartier latin, cette manifestation, on le voit, parce qu'il y a une photo devant une banderole qui s'en prend au métèque. C'est le mot qui est employé. Il y a aussi des attaches familiales assez particulières. C'est ainsi que son frère aîné, Robert Mitterrand, épouse en 1939 une mademoiselle Edith Caillet, qui était la nièce de Mercedes de l'oncle, c'est-à-dire de la femme d'Eugène de l'oncle, qui était le fondateur de la Cagoule. Et la Cagoule, c'est un mouvement factieux, c'est un mouvement d'extrême droite qui prépare un putsch contre la République. Et comme vous le savez, Mitterrand avait des amis chez les bons pères du 104 rue de Vaugirard, dont François Dalle et André Bettencourt. Et Liliane Schuller, fille d'Eugène Schuller, donc L'Oréal, qui finançait la Cagoule, va épouser André Bettencourt. Et François Mitterrand, en 46, dirigera brièvement Votre Beauté, un magazine qui appartenait à L'Oréal. Mais nous allons déjà trop loin.
Le gouvernement vient de faciliter encore, après la circulaire Jospin de 97, l'accès à certaines archives de Vichy, et les historiens disent qu'il ne faut pas en attendre des miracles, mais qu'on en saura peut-être davantage ainsi, plus vite en tout cas, sur le monde des cagoulards. Il évoque devant El Kabbach l'importance de l'expérience de la captivité. Sergent, blessé, fait prisonnier, il se retrouve en stalag. Je le cite, « J'étais un soldat vaincu d'une armée déshonorée et j'en voulais à tous ceux qui avaient rendu cela possible, au premier chef, les politiciens de la Troisième République. »
Oui, ça... Il y a chez Mitterrand, chez le jeune Mitterrand, je vois un croisement de ce terreau d'extrême droite et puis de quelque chose qui va être défini par la guerre. Il tente de s'évader trois fois, il réussit, semble-t-il, la troisième fois, en décembre 41. C'est ce qu'on va appeler l'esprit prisonnier. Et ça, c'est très important. Les prisonniers, après 40, ce sont 2 millions d'hommes qui sont dans les stalags en Allemagne. Et il faut comprendre que 2 millions d'hommes, ça veut dire beaucoup d'épouses, de frères, de sœurs, d'amis, de parents. Donc en réalité, plusieurs millions de Français qui sont concernés par ce fait prisonnier. Et Vichy va essayer, évidemment, par la propagande, de tenir ces 2 millions d'hommes,
c'est d'ailleurs
leur famille, et voilà.
C'est d'ailleurs le but qu'il a en rejoignant Vichy peu après son évasion, c'est début 1942, c'est d'y faire entendre le plus vite possible cet esprit prisonnier. Alors, Vichy, c'est l'hôtel du Parc, capitale du régime vichiste, où les vichyssois sont nombreux à attendre le maréchal, sa garde, un petit peu comme les femmes espagnoles, expliquez-vous dans votre livre 1941, attendent la statue de la Vierge.
Veuillez écouter de l'hôtel du Parc à Vichy le reportage de la cérémonie de la relève de la garde et de l'envoi des couleurs. Reporter Stéphane Pizella.
Nous voici comme chaque dimanche devant l'hôtel du Parc. La musique est arrivée à notre hauteur, s'est alignée face à l'hôtel, dos à la foule massée sur l'allée couverte. La foule est nombreuse. Deux officiers sortent de l'hôtel du Parc, vont se placer devant l'arbre. Voici le maréchal qui apparaît, acclamé comme vous pouvez l'entendre. En civil, il salue d'un grand coup de chapeau et s'avance face au drapeau.
Attention pour les couleurs! Présentez!
J'avais cru que cette cérémonie serait pour ma part et à tant d'autres qui nous aimaient plus parce que l'habitude les a dépouillés, qu'elles n'ont plus rien à nous donner, et je m'étais trompé. Parce qu'au moment où j'ai pris place sous le balcon en montrant les couleurs, ma pensée mue vers vous, vous tous, mes amis, mes camarades, captifs dans mon souvenir. C'est à vous que je pense et que je dis, dans un instant votre drapeau claquera à la brise, le drapeau que je verrai pour vous. Et il y aura dans notre ciel un air de printemps et dans ses trois couleurs, l'espoir.
Stéphane Pizella, qu'on vient d'entendre, consacrera plus tard un documentaire à l'Élysée et à la République. François Mitterrand, lui, en 1942, décrit Vichy à son arrivée, une cuvette à l'air qui incite à la torpeur, chargé qu'il est d'humidité mauvaise et peuplé de villas maflues. On croirait vous lire d'ailleurs, parce que c'est un feu d'artifice de formule, votre livre 1941, quand il s'agit de décrire Vichy.
Oui, que je serais un mitterrandien du placard, c'est ce que vous voulez dire. Oui, bah, Vichy, mais aujourd'hui encore, lorsque vous y allez, c'est très frappant parce que c'est une île urbaine. Vous êtes du côté de l'hôtel du Parc, et près de l'Opéra, vous avez l'impression d'être dans un morceau de plaine Monceau, urbanisme thermal, haussmannien, et puis vous faites 50 mètres et vous voyez des vaches. Et donc, au bord de l'Allier. Donc il faut imaginer que dans cette ville thermale va se créer un microcosme absolument méphitique, puisque c'est comme une compression de César en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on met l'appareil d'État, on met les journalistes, on met les diplomates, plus toutes sortes d'intrigants qui y circulent, dans un lieu qui est un lieu très très théâtral. Il y a un côté grand-duché de Gerolstein, il y a un côté Offenbach, mais d'époque Révolution nationale. Et évidemment, c'est propice à toutes sortes d'intrigues, d'ailleurs aussi d'intrigues sentimentales, car la chambre est à la fois la chambre d'hôtel, est à la fois le bureau, mais aussi l'endroit où l'on...
La cage à adultère, oui. Vous expliquez qu'à Vichy, il faut regarder les bérets, parce que c'est un panier de crabes en même temps qu'un lieu de croisade. Et alors il y a des bérets de certaines couleurs, de certaines inclinaisons, les bérets des compagnons de France, du compagnon du Lyonnais, et les bérets de la Légion française des combattants. C'est là qu'il a atterri pour les premiers mois à Vichy, François Mitterrand.
Oui, alors il arrive à Vichy début 42, et dans sa biographie, il a toujours dit que l'année 42, c'était l'année délicate, l'année difficile, puisque c'est l'année de Vichy. Alors, il est engagé comme documentaliste à la Légion française des combattants, qui est un mouvement qui voulait regrouper les partisans du maréchal Pétain, fondé par Xavier Valla, quand même, qui va être le premier commissaire aux affaires juives de Vichy. Qui a son siège dans un lieu tout à fait... Enfin, les noms sont cosmopolites à Vichy. Il est toujours curieux c'est un régime xénophobe à bien des égards, mais dans une ville ouverte. Donc c'est à l'hôtel de Séville, boulevard de Russie, que le jeune Mitterrand s'installe. Et à ce moment-là, la Légion est dirigée par François Valentin, qui était un proche du colonel de Larocque. Donc on retrouve le colonel de Larocque et des Croix de Feu dont on parlait tout à l'heure. Et qui était en... c'est une ville de clans. Et vous soulignez à l'instant les bérets. En effet, il y avait toutes sortes de mouvements, de ligues. Et il y a une rivalité de cette époque entre la Légion française des combattants et le SOL, le service d'ordre légionnaire de Darnan, plutôt appuyé par Laval, qui va devenir ensuite la sinistre milice.
Donc, il est du côté maréchaliste, oui. Pas du côté... collaborationniste, ni même vraiment du côté de ceux qui militent pour le rapprochement avec l'Allemagne, il y en a à Vichy, et c'est le même esprit, un peu anti-allemand quand même, qu'il retrouve dans le commissariat au reclassement des prisonniers, où il arrive un peu plus tard dans l'année 1942. Le commissariat qui est 6 rue Hubert Colombier.
Rue Hubert Colombier.
Il y a des castels, dites-vous, demi-pistache et des tourelles Second Empire.
Ah oui, ça c'est hallucinant. Sans faire un jure aux vichyssois, qui sont les habitants de Vichy, et qu'il faut distinguer des vichistes, qui étaient les partisans du régime, vous pouvez avoir des promenades hallucinogènes à travers cette ville de l'Allier.
Oui, mais là, il défend l'idée des centres d'études et d'entraide qui, dans chaque département, doivent être construits autour des prisonniers de guerre revenus et qui doivent propager les idées de la Révolution nationale. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est reçu par le maréchal Pétain avec ses camarades du comité d'entraide de l'Allier en octobre 1942.
Oui, une chose à signaler, c'est qu'il démissionne en avril 42 de la Légion des combattants. On lui donne à ce moment-là, c'est établi par Péan, le choix entre le commissariat aux affaires juives et le commissariat au reclassement des prisonniers. Et il choisit ce commissariat qui est dirigé par un certain Maurice Pinault. En effet, il s'agit de maintenir le culte du maréchal dans les camps, mais aussi d'aider les évadés. Il y a une partie d'activité un peu clandestine, et je dirais qui annonce aussi quelque chose de l'esprit démocratien d'après-guerre. Il y a pas loin de Maurice Pinault, des gens comme Thierry Maulnier, Jacques Madol, Jean Guiton, François Pérou. C'est encore une autre composante, la composante chrétienne sociale qui se retrouve aussi dans cette à Vichy.
Les prisonniers, c'est aussi une mosaïque d'organisations. Georges Scapini qu'on va entendre, c'est l'ambassadeur chargé des prisonniers en Allemagne de leur rapatriement pour mauvaise santé ou pour nécessité nationale. Et ensuite, ça va être un des grands tubes de l'occupation que nous entendrons.
Paris. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Scapini, lance un émouvant message aux enfants des prisonniers pour lesquels un grand hebdomadaire parisien organise régulièrement des spectacles.
Mes enfants, vous commencez l'existence sous des auspices tristes, mais vous l'aborderez avec courage. Vos papas, vos frères sont dans des camps de prisonniers. Ils pensent à vous. Donnez-leur la satisfaction lorsqu'ils rentreront. Et je souhaite que ce soit bientôt. D'avoir en face d'eux des frères ou des enfants qui auront supporté courageusement la séparation et qui se seront préparés à être dans la vie ceux qui présideront à la Renaissance française.
Je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'était Léo Marjane qui, devenue Madame de la Doucette, serait ravie, parce qu'elle est toujours vivante, de vous recevoir dans sa forêt, vous, l'homme en vert, Marc Lambron. François Mitterrand à Vichy. Voilà que, à mesure qu'avance l'année 42, des choix nouveaux doivent être faits. Retour de Laval, débarquement en Afrique du Nord. Pétain y perd l'amiral Darlan. Il aurait dit « Oh, j'ai perdu mes amiraux, il me reste mes prisonniers ». Ben même pas.
Même pas, parce que le mouvement prisonnier se divise. Maurice Pinault est révoqué par Laval. Mitterrand démissionne aussitôt. Il y a une sorte d'organisation dissidente qui s'appelle le Comité National de Lutte pour les Prisonniers, qui est formé avec Pinault, avec Mitterrand, avec un de leurs amis, Antoine Mauduit. Et l'année 43, c'est l'année où les choses vont basculer pour Mitterrand. Il a toujours l'appui du cabinet Pétain, du docteur Ménétrel, de Gabriel Jeantet. Il reçoit la Francisque au printemps 43, mais en juillet. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'en juillet, il va y avoir, nous en parlerons, l'esclandre de la salle Wagram, c'est-à-dire que dans une réunion officielle du commissariat aux prisonniers qu'il vient de quitter, qui est dirigé par un certain André Masson,
le remplaçant de
Pinault, Mitterrand prend la parole depuis la salle.
Et on va entendre ce qui s'est passé. Encore que c'est une reconstitution qui suit des archives. Donc Masson, c'est le nouveau commissaire au reclassement. Il a pour charge de suivre l'opération de la relève qui a été lancée par Laval. Donc retour de trois prisonniers, d'un prisonnier en échange du départ vers l'Allemagne de trois STO. Alors ce meeting, ça c'est la vraie archive. Ensuite reconstitution.
À Paris, plusieurs milliers de captifs libérés assistent à la première et imposante manifestation du mouvement prisonnier. Monsieur André Masson, commissaire général, va prendre la parole.
En ce moment où il est beaucoup question de la relève, j'ai bien conscience, et nul ne me démentira sérieusement, qu'une autre politique que celle du président Laval n'empêcherait pas les ouvriers de partir. Il empêcherait seulement les prisonniers de rentrer.
Vous montez. Comment osez-vous, monsieur?
J'ose parce que vous montez, maçon. J'ose parce que la relève est un marché odieux. J'ose parce que vous n'êtes pas fondé à représenter les prisonniers.
Je suis ici par la volonté du chef du gouvernement. Vous devez m'obéir. Vous serez convoqué par le président
Laval. Vous ne représentez pas les prisonniers. Vous êtes un imposteur. Jamais je ne vous
obéirai. Arrêtez-le.
Mathieu Bisson, séance de la salle Wagram, 10 juillet 43. Mathieu Bisson interprète François Mitterrand dans un docu-fiction signé Serge Moati et Christophe Barbier. Je ne sais pas s'il est allé aussi loin dans la dénonciation depuis le fond de la salle, debout sur une chaise.
Il semble quand même que l'interpellation ait été assez virulente. Et d'ailleurs Mitterrand fuit. Enfin, il aurait pu être interpellé. Commence l'époque où Mitterrand aurait pu être arrêté, c'est-à-dire bascule dans la clandestinité, dans la résistance, se rapproche de gens comme Freinet, comme Bénouville, d'une résistance qui n'est pas une résistance gaulliste, mais une résistance giraudiste, plutôt.
Ça veut dire, je reviens sur l'affaire de la Francisque, parce que c'est à peu près aux mêmes dates qu'il reçoit la Francisque et qu'il interpelle son supérieur à Wagram, que la Francisque, c'était un moyen pour lui de se couvrir.
Lui, il a dit que la Francisque était une façon que le cabinet Pétain, toujours Ménétrel Jeantet, avait de le couvrir éventuellement, en tout cas de ne pas le démentir dans son engagement dans la résistance. C'est là qu'il devient Morland, qui devient Arnaud, qui devient Maurice, qui sont ses pseudonymes. Et
en novembre 43, il a complètement plongé dans la clandestinité quand la Gestapo vient inspecter son appartement à Vichy.
11 novembre 43, il est recherché par la Gestapo et je pense que s'il avait été arrêté, il avait quelques chances de finir devant un peloton d'exécution allemand. C'est un vrai résistant. Et à preuve, le même mois, il part pour Londres. De Londres, il est transféré à Alger, dans un avion anglais, ce que lui reprochera le général de Gaulle, qu'il rencontre néanmoins en décembre 43.
Et comment ça se passe en décembre 43?
Pas très bien, pas très bien. Mais quand même ainsi, on imagine bien d'abord que de Gaulle n'aurait pas reçu en décembre 43 un collabo. Donc Mitterrand est vu comme un résistant à ce moment-là. Mais de Gaulle lui reproche d'être proche des réseaux Buckmaster, c'est-à-dire avion anglais, c'est-à-dire les giraudistes. Donc c'est pas un homme de la France libre. Et puis il ironise, semble-t-il, le général en disant alors vous voulez faire un mouvement des prisonniers, mais pourquoi pas un mouvement des épiciers ou un mouvement des charcutiers. Donc ça se passe moyennement bien, mais enfin il se voit. Et puis Mitterrand revient en métropole, et là, avec ses amis Pelat, on voit apparaître des amis du futur, en quelque sorte. Roger-Patrice Pelat. Qu'il avait connu en Stalag. Jean Munier, Bernard Finifter, qui était un de ses amis d'avant-guerre. Et là, c'est encore un autre réseau parisien, ça c'est l'année 44, c'est-à-dire que Pelat, on va pas entrer dans les petites histoires, mais est à l'époque très amoureux de Christine Gouze, sœur de Daniel Mitterrand. Et donc Mitterrand va rencontrer Daniel, là c'est un autre milieu, les instituteurs de la Côte d'Or, francs-maçons. Et puis à Paris, il est dans un réseau avec des personnages comme Edgar Morin, Marguerite Duras ou Robert Antelme.
Une résistance tardive ne diminue en rien le danger qu'elle provoque, on vous a bien compris, Marc Lambron. Ce qui a fait scandale après le livre de Péan, ce n'est pas le caractère tardif de la résistance de Mitterrand, c'est le maintien de ces liens depuis l'année 49, dit-il, jusqu'aux années 1980, avec René Bousquet, chef de la police de Vichy, responsable de beaucoup de basses œuvres, des démolitions du quartier du Vieux-Port de Marseille aux rafles des Juifs, et qui était devenu ensuite au responsable de la Dépêche du Midi et financier de la gauche non communiste. Alors sur ce sujet, René Bousquet, il tente de s'expliquer avec Jean-Pierre Elkabbach. C'est toujours la même interview en direct de l'Élysée, septembre 94.
J'ai connu Bousquet, oui. Je l'ai connu après son acquittement de 49. Je ne l'ai pas connu pendant la guerre.
Quand il s'occupait de la Dépêche du Midi, quand il était dans les conseils d'administration.
C'était un personnage acquitté par la justice française, par la haute cour de justice chargée de punir les collaborateurs. Le fait de le connaître n'est pas en soi répréhensible, puisqu'il était dans la vie, il appartenait à des milieux qui n'étaient pas les miens. Tout de même, j'étais membre du gouvernement pendant 6 à 7 années de la 4e République. J'étais mêlé à la vie politique, donc en relation avec la presse, etc. C'est tout.
Ça vous avait pas choqué qu'il était acquitté? à l'époque.
Mais je ne connaissais pas, moi, les données du procès. Je trouvais tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soient acquittés. La condamnation n'était pas automatique. Quand on avait appartenu au gouvernement ou à la haute administration de Vichy, on était passible de haute cour. Mais on n'était pas obligatoirement condamné. C'est la moindre des choses, ou alors quelle justice ce serait?
Bon, je ne veux pas faire de procès et de mauvaise justice, mais il dit ne l'avoir connu qu'en 1949. En même temps, 1977, c'est encore dans les mémoires de son ami Rousselet, il déjeune avec lui et d'autres contemporains, et il a amené là Jacques Attali, qui lui demande, mais enfin, pourquoi m'avez-vous fait manger avec ces gens-là? Sans René Bousquet, lui répond Attali, les convives ne seraient pas là, il n'y aurait pas eu de dîner. Ça veut dire que René Bousquet aurait, sans qu'il l'ait connu, lui, Mitterrand, joué un rôle pour le protéger pendant la guerre.
C'est que personne, je crois, n'a pu démontrer que Mitterrand avait rencontré Bousquet à Vichy. Bousquet était chef de la police, l'équivalent d'un ministre de l'Intérieur. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y avait au cabinet de Bousquet des personnages qui s'appelaient par exemple Jean-Paul Martin ou Yves Cazaux, qui, sans doute, ont donné à Mitterrand des informations qui émanait donc de l'entourage de Bousquet. Et à mon avis, pour autant qu'on sache, Bousquet, c'est un effet de l'après-guerre. C'est-à-dire que le Bousquet de Mitterrand, le Bousquet que Mitterrand connaît et dont il est un des familiers, plus qu'il n'a voulu le dire, c'est en effet l'homme de la dépêche du Midi, c'est l'homme qui finance l'UdSR.
Le parti Mitterrand après-guerre.
Voilà, avec comme point commun l'antigaullisme, au fond. C'est ça qui fédérait ces hommes de gauche, parce que Bousquet était un radical socialiste avant 40. Il était plus à gauche que Mitterrand ne pouvait l'être à cette époque.
L'anniversaire de la mort va permettre la publication de 3 volumes d'œuvres aux belles lettres, avec le premier livre daté de 45, Les prisonniers de guerre devant la politique. C'est un anniversaire en demi-teinte quand même, Marc Lambron. Même le président de la République dit « Je vais attendre le centenaire en octobre pour parler. Je vais aller à Jarnac, mais rester silencieux. » Anniversaire en demi-teinte.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si. D'abord, nous sommes un peu intoxiqués de commémoration. Est-ce que c'est celle-là qu'on a envie de voir mise en avant en ce moment? Parce que le parcours de Mitterrand, je dirais qu'il est à la fois honorable et tortueux. Si vous voulez, moi, je prépare en ce moment l'éloge de François Jacob auquel j'avais succédé à l'Académie, qui est un grand honneur. Il était à Londres le 21 juin 1940. Il y a quelques différences avec Mitterrand. Et si on n'a pas vécu une génération, on peut tout de même, après, historiquement, comparer des parcours.
Alors, je citais les belles lettres, les œuvres de Mitterrand. 1941, c'est toujours disponible. Et c'est un livre très drôle à lire. C'est celui que vous avez consacré, Marc Lambron. À Vichy, l'émission a été préparée par Franck Oliva, réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Fabrique Desmaz.